Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
18h32, le débat des grandes voix du lundi avec ce soir, à mes côtés, Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Jean Garrigue, l'historien. Bonsoir,
bonsoir
Jean. Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1, l'homme le mieux informé de France.
Bonsoir Julien.
Dit-on. Bonsoir mon cher Louis.
Bonsoir Julien.
Le couvre-feu à 18h, on en parle ce soir car cela fait débat, contesté par la population et par les élus locaux. Il concerne ce couvre-feu avancé dorénavant 23 départements, certains y voient une restriction contre-productive, d'autres voudraient passer à un confinement, comme à Marseille, même si là aussi ça fait débat. Et pour l'instant, l'idée d'un couvre-feu généralisé semble écartée, comme le disait encore ce matin à notre micro le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
On a montré depuis le début de cette crise qu'on avait un suivi au jour le jour et qu'on prenait toujours les mesures nécessaires à la protection des Français. À ce stade, il n'y a pas de reconfinement prévu, mais il ne faut surtout pas baisser la garde et évidemment, on continuera à prendre les mesures nécessaires.
Bon, elle est tenable à long terme, cette position de ne pas reconfiner, de s'en tenir à ces couvre-feux avancés, Louis Dragnel, Charles Villeneuve.
Écoutez, Charles. Moi, je, à l'étude, si vous voulez, ce que vient de dire le ministre, le porte-parole du gouvernement, je trouve qu'il a raison de le dire parce que sur le plan de l'analyse des data et de l'ajustement sur ce plan-là, notamment par rapport aux horaires, différents horaires de couvre-feu, le gouvernement, je trouve, a non pas tout faux, comme certains nombres le disent, mais presque tout juste. Évidemment, il y a la campagne de vaccination, on sait quel est le revers, on sait que la bureaucratie française n'a tiré aucune leçon de ses erreurs sur les masques, tout ça. Mais sur ce plan-là, celui que je viens de
vous louez le pragmatisme du gouvernement, en
somme. Oui, absolument. Je trouve qu'ils ne se précipitent pas, et ils ont raison. Et en ce qui concerne le 18h, la mesure est utile. Rappelons-nous qu'il y a très peu de pays, ils sont quatre, dont la Guyane française, qui avait instauré un couvre-feu de 17h à 5h du matin, et ça avait payé. C'est ce qui a inspiré d'ailleurs
oui,
le gouvernement.
C'était au printemps dernier, mais souvenez-vous, c'était tout le week-end aussi. C'était tout le week-end, ça veut dire que le samedi et dimanche, on restait chez soi. C'était
oui,
plus qu'un
et
couvre-feu.
Eh bien écoutez, là, depuis le 17 décembre en effet, oui, si ma mémoire est bonne, l'Institut Pasteur a fait un questionnaire où elle a interrogé un nombre considérable de patients, et on s'aperçoit qu'il y a 30-35% de gens qui échappent, qui ne savent pas où ils ont été contaminés. Petit à petit, l'enquête montre qu'ils ont été contaminés avant de quitter leur entreprise par des petits pots festifs, etc. Oui. Et puis surtout, lorsque le couvre-feu commençait à 22h. Alors là, ils faisaient le plein d'alcool dans un certain nombre de débits de boissons. Et puis, évidemment, c'était festif, alors, la fête jusqu'à 22h.
22h, c'est une chose. Mais Jean Garrigue, votre avis également. Parce que beaucoup d'élus et de professionnels de santé, quand même, aujourd'hui, doutent de l'efficacité de ce couvre-feu à 18h. J'entendais, par exemple, l'épidémiologiste Catherine Hill nous dire « Cela va embêter les gens et ne va pas beaucoup réduire le nombre de personnes qui se croisent et se contaminent. » Et je recite à chaque fois mon exemple, pardon de le dire, mais de l'Allier. 337 000 habitants pour une densité de 46 habitants par kilomètre carré. Montluçon ou Moulins, c'est les plus grandes villes du département, moins de 20 000 habitants. Qu'est-ce que ça change, 18h ou 20h ?
Là-dessus, je pense que vous avez raison. Je pense aussi, que, comme ça a été dit, que la stratégie est bonne et que, en tout cas, le couvre-feu a fait ses preuves. Il y a une enquête du CNRS qui l'a montré. C'est un moment qui concerne à peu près 23% des contaminations et qui, effectivement, est négatif. Et donc, c'est plutôt une bonne idée de le couvre-feu et ça évite le confinement, mais on y reviendra peut-être. En même temps, et là aussi, vous avez raison,
oui.
Je pense qu'on ne peut plus, à l'heure actuelle, gérer cette crise, en tout cas le côté évolution de la pandémie, sans faire du territorial, sans faire du local
absolument.
Même. Je pense que,
absolument.
D'abord, c'est un peu pour ça que M. Castex a été nommé Premier ministre, pour le rapport avec les territoires, mais au-delà de ça, je pense que c'est, on voit à quel point tout doit être maintenant territorial.
C'est vrai.
On voit bien qu'aujourd'hui...
On sent qu'il y a un coup de barre à gauche avec du national, un coup de barre à droite avec du territorial, et c'est vrai que vous avez raison de le dire, Jean Garrigue, on revient aujourd'hui à cette régionalisation de la gestion du Covid. Louis Dragnel, il y a des élus quand même qui grognent, hein. Je voyais le maire de Cannes, par exemple, qui conteste en justice l'arrêté de couvre-feu et qui dit... mécaniquement, les gens ont moins de temps pour faire leurs courses après le travail et du coup, ils vont se rassembler aux mêmes horaires, dans les mêmes magasins et ça représente un risque de contamination supplémentaire.
Alors oui, de toute façon, tous les maires aussi, en fonction des attentes de leur population, vont essayer d'épouser ce que demandent les gens. Il y a aussi des maires, je pense notamment à Marseille, la première adjointe au maire de Marseille, qui a demandé carrément, qui a évoqué le
confinement,
de Marseille.
Oui. Un confinement.
Donc, en fait, tout est possible. Je reviens juste sur ce que vous disiez tout à l'heure.
D'ailleurs, c'est assez amusant de noter que quand on avait instauré des mesures particulières à Marseille, tout le monde criait au scandale. Et puis maintenant qu'on instaure des mesures d'un reconfinement un peu abaissé à 18h, la maire dit qu'il faut aller plus loin, il faut confiner.
C'est exactement en fait, le diagnostic que fait le gouvernement. C'est qu'aujourd'hui, ils se disent au sein du gouvernement, en fait, il y aura toujours des gens qui trouveront que ce n'est pas assez, d'autres qui pensent que c'est trop. Et puis, ce que je voulais simplement dire par rapport à ce que disait Gabriel Attal, oui. deux petites choses. Gabriel Attal a dit pas de reconfinement à ce stade, donc ça ne veut pas dire jamais. Et la deuxième chose, c'est que compte tenu de l'évolution du mutant, et pour l'instant on ne connaît pas encore suffisamment d'éléments pour avoir des idées très claires, mais au gouvernement, et les spécialistes nous disent tous, journalistes, qu'on va quand même plutôt vers des restrictions et pas vers un allègement des mesures qu'on connaît actuellement.
Donc, surtout quand on voit ce qui se passe en Grande-Bretagne.
L'horizon, c'est quand même plutôt celui des restrictions.
Alors, on se retrouve dans quelques secondes, 18h38, avec toujours les grandes voix du lundi. Reconfinement ou pas, et à quelle échéance? On en parle, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, 18h48, du débat des grandes voix du lundi, avec toujours Charles Villeneuve, l'historien Jean Garrigue à mes côtés, Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Alors, c'est vrai, Charles, qu'on parlait de couvre-feu plus strict, avancé à 18h dans 23 départements, ce qui fait bondir certains élus et ce qui fait polémique aussi au sein de la population. Alors le conseil scientifique était lui plus favorable d'ailleurs à l'idée d'un reconfinement strict, hein, pour parler clairement. Donc maintenant c'est vrai qu'on s'interroge, est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est reculé pour mieux sauter? Est-ce qu'on va se reconfiner? Et surtout quel type de reconfinement? C'est-à-dire est-ce qu'on va arriver à un reconfinement comme en juin dernier?
Alors écoutez... Je crois qu'on aura une idée précise de ce qu'on va nous réserver jeudi. Jeudi, dans l'après-midi. Puisqu'il y aura d'abord les résultats de l'enquête flash par rapport aux variants aussi, évidemment.
Oui, c'est-à-dire qu'on teste une population donnée pour voir un petit peu comment circule le variant.
La plupart, notamment des membres du conseil scientifique, sont intimement persuadés qu'il y a beaucoup plus de Français, de gens contaminés en France par le variant anglais que les chiffres actuels. Oui. La deuxième chose, c'est qu'on saura autant le 24 décembre jusqu'au 25 au matin, ça s'est assez bien passé.
Oui, ça y est, on a le recul maintenant.
Voilà, autant le 31, on ne le sait pas, on le saura aussi jeudi. Donc l'addition, si vous voulez, de l'ensemble, notamment du nombre de contaminés, des décès aussi, fera qu'ils prendront une décision vraisemblablement. Là, le meilleur informateur... que nous avons ici.
Il y a un conseil de défense qui a lieu le 13 janvier et à l'occasion duquel effectivement seront évoqués énormément de sujets à la fois sur les questions de vaccination mais aussi sur les questions de restriction de liberté pour lutter contre la propagation du virus.
Ça vous paraît possible un reconfinement comme au printemps dernier? Les écoles fermées, pas une personne dans les rues, tous les magasins qui referment, ça vous paraît possible ça quand même?
Étant donné ce qu'a été le déclin de l'adhésion, je dirais, entre le premier et le deuxième confinement, un troisième confinement, politiquement, apparaît très très difficile. Je pense que psychologiquement, les Français n'y semblent pas prêts. En même temps, si vous regardez tout
après,
ce qui se passe...
Les Français, ils sont prêts ou pas, et puis il y a la réalité des chiffres.
Ce que dire.
Le professeur Combes disait ce matin, on est dans une nouvelle épidémie. C'est une épidémie dans l'épidémie.
Oui, c'est une nouvelle épidémie dans l'épidémie. Oui.
Est-ce que l'idée d'avoir une forme de reconfinement commando sur 2-3 semaines, assortie d'une campagne de vaccination qui devrait s'intensifier, qui devrait être plus intensifiée, il y a des moyens. Non seulement... faire fabriquer le vaccin Pfizer par des laboratoires français, on dit que ça pourrait être possible, en plus du Moderna, etc.
Ouais, ça va mettre un peu de temps quand même à arriver.
Ça va mettre du temps. Mais moi, je pense que ça serait déjà quelque chose qui pourrait, à la limite, satisfaire les Français. De toute manière, peut-être qu'on n'aura pas le choix. Pour l'instant, on n'a pas toutes les données, justement.
Louis Dragnel.
Alors, pour l'instant, le gouvernement, en tout cas, refuse de parler de reconfinement. Et s'il a lieu, je pense qu'il ne s'appellera pas reconfinement. C'est-à-dire qu'on a bien compris que au gouvernement, en tout cas, ce qu'il disait, c'est que en dernier recours, ils fermeront les écoles, les collèges et les lycées, en vraiment dernier recours. Donc en fait, avant la fermeture des collèges, des lycées, des écoles, il y a plein d'étapes possibles. Il y a la possibilité de refermer les commerces non essentiels, même si l'étude du professeur Fontanet a démontré que leur réouverture n'a pas d'impact épidémique. Et donc, en fait, il y a plein de variables possibles. On peut limiter les déplacements, on peut faire le retour des attestations. Il peut y avoir, en fait, énormément de choses. Mais une quasi-certitude, ça ne s'appellera pas reconfinement. En tout cas, au gouvernement, on nous parle uniquement d'éventuelles mesures de restriction de liberté.
Faites attention à ce que vous dites, parce qu'on a les archives qui fonctionnent. Je peux vous ressentir ça dans quelques semaines.
Moi, je vous rapporte simplement ce qu'on me dit. Et parce qu'en fait, ils sont traumatisés. Ils savent que les Français aussi sont traumatisés par le mot reconfinement. Ouais. Même si on voit bien dans les autres pays qui nous entourent, la Grande-Bretagne, on voit en Allemagne, même certains pays du Nord, commence en fait à reconfiner ou en tout cas.
Vous avez vu ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est tragique. Hein. Les services hospitaliers sont saturés et les scientifiques et les professeurs de médecine commencent à dire il va falloir qu'on choisisse qui on sauve et qui on ne peut pas sauver. Charles Villeneuve.
Ils ont perdu le contrôle de l'épidémie. La France n'en est pas là encore. Et puis il faut quand même reconnaître quelque chose. On parlait des Français. Les Français ont eu une attitude civique assez extraordinaire à l'occasion de ces deux confinements. Et y compris avec la modulation des horaires.
Sauf nos petits jeunes qui font des rêves parties le 31 décembre.
Oui, non, mais d'accord, mais il n'y a eu qu'une rêve partie finalement de cette ampleur.
Julien.
C'est vrai. Bon, sur 67 millions d'habitants, ce n'est pas beaucoup. Bon, il ne faut pas non plus aussi amplifier, si vous voulez, ce dérapage. Mais il n'empêche que moi, je crois profondément que si vraiment le variant anglais, le fameux variant anglais, je suis toujours poussé à dire le patient anglais, etc. Le variant anglais,
c'est autre chose.
Le
ça.
Variant sud-africain, hein, aussi, qui a fait sa rentrée en France, peuvent amener au confinement total. Mais c'est vrai qu'ils s'y refusent pour l'instant au niveau du Premier ministre et du Président de la République. C'est vrai.
Vous avez entendu ce que disait notre invité, justement, le virologue Maréchal. Hein, il disait que le variant anglais est 70% plus contagieux que la Covid normale.
Mais,
c'est-à-dire que
mais pas plus méchant.
Un patient, on contamine 15 personnes contre 10.
En fait, c'est la propagation qui augmente, qui s'accroît. Mais ce n'est pas forcément la dangerosité.
Mais là où Charles a raison, c'est que d'abord la stratégie britannique était mauvaise, d'une. Merci Boris Johnson. Et deux, parce qu'il a quand même joué un rôle négatif, à mon avis.
Depuis le début.
Et deuxièmement, les Britanniques, et ça peut paraître paradoxal, étant donné nos cultures réciproques, les Britanniques sont montrés moins civiques que les Français. Moins bien respecté. Les images qui viennent de là, c'est un paradoxe.
Quand on connaît la Grande-Bretagne, on sait que les Britanniques sont plus respectueux des règles.
Et en Irlande aussi. En Irlande aussi.
Vous connaissez le point commun entre Arnaud Montebourg et Anne Hidalgo? On vous dit tout juste après la pause. Restez avec nous, 18h46, à tout de suite.